Bonjour et bienvenue, 11h TU, 13h à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, entre l'Inde et le Pakistan, les opérations militaires se poursuivent et même s'intensifient. Quatrième jour d'affrontement entre les deux voisins qui restent sourds aux appels à la désescalade lancés par la communauté internationale. Quatre dirigeants européens sont à Kiev, venus afficher leur soutien à l'Ukraine en guerre. Ceux de la France, de l'Allemagne, de la Pologne et du Royaume-Uni. Ils exigent de la Russie un cessez-le-feu complet et sans conditions permettant l'ouverture de négociations à suivre dans un instant. Également dans l'actualité, l'ouverture à Genève de négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, présentées comme les plus importantes depuis que Donald Trump a déclenché la guerre des surtaxes. Reçoit actuellement la visite de quatre des dirigeants européens les plus importants. Emmanuel Macron pour la France, Friedrich Merz pour l'Allemagne, ainsi que le Britannique Keir Starmer et le Polonais Donald Tusk. Les quatre hommes ont rencontré ce matin le président Volodymyr Zelensky, soutenir encore et toujours l'Ukraine et exiger de la Russie un cessez-le-feu complet et sans condition de 30 jours permettant l'ouverture de négociations. C'est l'objectif de leur déplacement, Pierre-Olivier, mais c'est aussi une visite très symbolique.
Oui, bien sûr, il y a d'abord cette toute dernière proposition que les quatre dirigeants sont venus formuler depuis la capitale ukrainienne, que Moscou accepte un cessez-le-feu de 30 jours et cela dès lundi prochain. En parallèle, c'est aussi depuis Kiev par visioconférence avec une trentaine d'autres pays baptisés la coalition des volontaires que seront évoquées les garanties de sécurité à apporter à l'Ukraine pour assurer cette trêve durable et notamment la question, bien sûr, des troupes terrestres ou maritimes envoyées par des pays tiers. Voilà pour le programme de ce déplacement. Mais c'est aussi un message plus symbolique que passent aujourd'hui les dirigeants européens, d'abord vis-à-vis des États-Unis. Après s'être soudainement rapproché de Vladimir Poutine au début de son mandat, Donald Trump montre maintenant une forme d'agacement face à des négociations de paix qui piétinent. Fort de l'appel du président américain qui a pressé jeudi dernier la Russie d'accepter un cessez-le-feu inconditionnel, les Européens, en se rendant à Kiev, montrent qu'ils sont aussi à la manœuvre et aux côtés des Américains pour faire avancer les choses. Et puis, c'est aussi un signal envoyé au président russe. L'Ukraine n'est pas seule et les sanctions à l'égard de Moscou pourraient encore se durcir si un cessez-le-feu n'est pas acté dans les jours qui viennent.
Pierre-Olivier, merci. Et donc, on rappelle cette toute dernière proposition. L'Ukraine et ses alliés européens proposent à Moscou un cessez-le-feu complet de 30 jours à partir de lundi, donc dans deux jours. Entre l'Inde et le Pakistan, l'escalade militaire se poursuit à coups d'attaques de drones, de tirs d'artillerie et de frappes de missiles. Les deux pays se rendent coup pour coup depuis les frappes indiennes de mercredi en représailles à l'attentat du 22 avril dans le Cachemire indien. Le Pakistan annonce aujourd'hui avoir riposté des tirs de missiles contre trois de ses bases aériennes, dont l'une aux portes de la capitale Islamabad. Côté indien, Srinagar, la principale ville du Cachemire, a été secouée par de violentes détonations à plusieurs reprises. La confrontation a déjà fait une cinquantaine de morts et c'est la pire entre les deux pays depuis au moins 20 ans. À l'étranger, des pays du G7 appellent à une désescalade immédiate. La Chine fait de même et les États-Unis proposent leur médiation. Les deux voisins possèdent, faut-il le rappeler, l'arme nucléaire. Le danger est donc bien réel. Mais pour Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS, le risque qu'elle soit utilisée est faible. Il était ce matin l'invité de RFI.
En principe, les Indiens comme les Pakistanais savent parfaitement que le nucléaire c'est fait pour ne pas s'en servir. C'est le principe même de la dissuasion. Mais au-delà de cela, il peut y avoir des escalades. Déjà, le fait que des cibles militaires aient été ciblées des deux côtés, c'est en soi une escalade. Après, il reviendra aux politiques côté indien, aux politiques et aux militaires côté pakistanais, de décider quand on s'arrête. Chacun dit tout dépend de ce que fera l'autre, mais ça, c'est un engrenage continue.
Jean-Luc Racine, il répondait ce matin aux questions de Julien Coquel-Rohem.
Radio France Internationale.
La ville de Genève en Suisse accueille depuis ce matin des négociations commerciales de très haut niveau entre les États-Unis et la Chine. Elles sont présentées comme les plus importantes depuis que Donald Trump a déclenché la guerre des surtaxes. Ses effets délétères, les effets de cette guerre se font sentir sur les deux premières économies et menacent la croissance mondiale. Les discussions de Genève se déroulent dans un endroit tenu secret, face à face. Le secrétaire américain au Trésor et le représentant en commerce, et côté chinois, le vice-premier ministre et Li Feng. Hier, Donald Trump a fait un geste en suggérant de ramener à 80% les droits de douane punitifs au lieu de 145%. Et puis parallèlement, Justine Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Parallèlement, la Suisse, elle, profite de ce rendez-vous pour plaider sa propre cause auprès de Washington.
Oui, la Suisse, terrain neutre pour des négociations commerciales internationales, mais qui n'oublie pas son propre cas. Berne est menacée de droits de douane de 31% sur tous les produits arrivant aux États-Unis. Et pour le reste du monde, sauf la Chine, ces droits de douane ont été ramenés à 10% seulement pour l'instant, jusqu'en juillet. La présidente suisse Karin Keller-Sutter et le vice-président du gouvernement voient l'échéance arriver rapidement. Ils ont donc profité de la présence des membres du gouvernement américain pour les rencontrer à Genève, dans un grand hôtel. Après l'entretien avec le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le représentant au commerce Jamison Greer, la présidente suisse a assuré ce vendredi qu'une délégation de son pays pourrait être reçue à Washington d'ici une à deux semaines pour élaborer un accord de principe. Berne exporte principalement des produits pharmaceutiques vers les États-Unis, mais aussi des montres de luxe, deux secteurs qui seraient fortement pénalisés par des droits de douane plus importants, des taxes que la Suisse estime injustes. Certes, elle importe moins qu'elle n'exporte aux États-Unis, mais elle investit beaucoup sur place. C'est même le premier investisseur étranger en recherche et développement dans le pays nord-américain.
Justine Fontaine du service économie, merci à vous. Le président colombien tente-t-il de défier l'administration Trump? Les États-Unis sont le premier partenaire économique et militaire de la Colombie. Or, le président Petro vient d'annoncer son prochain voyage en Chine. Dans quelques jours, il partira négocier des accords commerciaux dans le cadre du projet dit des nouvelles routes de la soie. À Bogota, l'envoyé spécial du département d'État a menacé de représailles le gouvernement colombien. Les précisions de notre correspondante Najet Benrabah.
L'Amérique latine doit s'ouvrir au monde entier, elle dialoguera avec la Chine et l'Union européenne. C'est avec ces mots que le président colombien a annoncé sa participation à la 4e réunion du forum CELAC-Chine, c'est-à-dire celle de l'ensemble des pays qui forment la communauté des États latino-américains et des Caraïbes avec le gouvernement chinois. Gustavo Petro veut s'associer au projet de Nouvelle Route de la Soie, un grand pari chinois dont le but est de développer son influence mondiale. Jusqu'à présent, ce projet a réuni plus d'une centaine de pays, dont une vingtaine en Amérique latine. En Colombie, le voyage du président, prévu le 14 mai, préoccupe les commerçants qui s'inquiètent des représailles économiques de la part du voisin, les États-Unis, son principal partenaire. L'an dernier, les échanges de biens et de services entre les deux pays ont atteint 32 milliards d'euros. Selon Mauricio Claver-Caron, l'envoyé spécial du département d'État américain pour l'Amérique latine, ce rapprochement entre la Colombie et la Chine pourrait, je le cite, « ouvrir la porte aux roses et aux cafés d'Équateur et de l'Amérique centrale ». Najet Benrabah, Medellin, RFI.
Un mot de sport en tennis actuellement, le tournoi de Rome, dernier grand tournoi sur terre battue avant Roland-Garros. On suivra aujourd'hui le retour du numéro 1 mondial, l'italien Sinner, après sa suspension de 3 mois pour dopage. Allez, musique pour finir, à l'heure où la soul contemporaine connaît un nouveau souffle, une voix nous vient tout droit de Scandinavie, celle d'Ina Forsman. La jeune chanteuse finlandaise sort un 4e album, 12 titres entre groove, funk, jazz et R&B. Carmen Lunsman. It's the after dark hour, and I'm having a toast for the good and the bad and the miserable.
Danser dans les moments les plus sombres de la vie, c'est la quintessence de cet album né en plein blues post-pandémique. Il est signé par l'une des voix les plus électrisantes et incarnées de la nouvelle scène soul, Ina Forsman. Considérée comme la relève d'Aretha Franklin, cette jeune Finlandaise rêve de devenir chanteuse depuis l'âge de 6 ans. Après la sortie de son premier album solo en 2016, avec une reprise d'une autre de ses idoles, Nina Simone, elle quitte Helsinki à 22 ans pour enchaîner collaborations et performances live intenses en constante quête de liberté. Dans son nouvel album After Dark Hour, aucun titre ne ressemble à l'autre. À la fois rétro et résolument moderne, il s'écoute comme un hymne à la joie, un remède musical contre la morosité ambiante du monde. Avec l'idée, comme le souhaite l'artiste, que les gens quittent ces spectacles épuisés de bonheur.
Ina Forsman, elle sera en concert en France à partir du mois de septembre. Très bonne journée à suivre sur RFI Carrefour du Maghreb.